Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur RFI, comme chaque après-midi, et pour vous parler de football et bien sûr de Ligue des Champions en cette époque de huitième de finale. Ce très beau match, une très belle rencontre, mais à la fin, le Real Madrid a gagné. Malgré l'intensité et la générosité des jeunes joueurs de l'Ajax, les Merengues ont montré à Amsterdam pourquoi cette compétition leur va si bien. L'expérience et l'efficacité ont payé, aidés par l'assistance vidéo, le baptême de la VAR en leur faveur. Les champions sortants impressionnent déjà, notamment le duo Benzema-Vinicius qui semble s'entendre très très bien. On est déjà impatient de voir le match retour. Tottenham, vainqueur de Dortmund. Une victoire maîtrisée de l'équipe de Pochettino qui n'a pas pris l'ascendant avant la deuxième mi-temps. Mais les trois buts des Spurs ont hypothéqué les chances des jaunes et noirs qui ont coulé hier soir à Londres. Une mauvaise passe et un mauvais moment pour le Borussia Dortmund. Aiglon et Lionceau de la Teranga en finale de la 21e CAN des moins de 20 ans. Les Sénégalais tenteront de remporter un premier titre continental qui ont perdu leur finale lors des deux éditions précédentes. Motivation similaire évidemment chez les Maliens en quête de titre eux aussi. Eux qui ont été sacrés plus jeunes chez les moins de 17 ans. Une finale qui se disputera donc dimanche après-midi à Niamey. Vous n'y serez pas, mais bon, je suis sûr que vous la regarderez.
J'y serai pas, mais bonjour Patrick Julliard. L'horaire en après-midi, c'est mieux, on risque pas la panne de courant.
Oui, je sais ce que vous voulez dire. Mais donc, c'est bien, de toute façon, le dimanche, en fin d'après-midi, aller au stade, c'est sympathique. Étienne Moati, bonjour.
Bonjour.
Vous intéressez au foot africain, hein, grâce à RFI?
Beaucoup. Je vais pas faire semblant, j'ai pas quand même pas vu tous les matchs des deux équipes qui sont en finale.
Notre confrère de l'équipe, et puis il y a Chérif Guémour de SoFoot. Bonjour Chérif.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Chérif, l'amoureux du foot total, nous allons justement en parler. Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour messieurs, bonjour tout le monde.
Radio Foot, c'est parti.
Allez, nouveau corner de chute, tête de Wirtz. Oh, Courtois, il est passé.
Oh, il a mis Oh, le héros. Tagliafico.
Alors, Daniel Skomina va lui-même aller vérifier ce qu'il s'est passé.
Ouais, il va le refuser. Il va le refuser.
But refusé par Daniel Skomina. Lancé à toute vitesse, il est passé.
Vinicius.
Karim Benzema. Attention RS avec
Allez.
L'explosion du volcan. Hakim Ziyech, il l'attendait, ce premier but en Champions League.
Deuxième poteau, quel caviar il a mis.
Oh, le coup de poignard.
Quel caviar
du triple tenant du titre dans le dos de la jeunesse de l'Ajax Amsterdam, qu'il fait mal et qu'il est important ce deuxième but, parce qu'il qualifie presque déjà le Real pour les quarts de finale.
Vous l'entendiez et vous l'avez sans doute suivi, ce match. Quel match, quelle ambiance hier soir donc à Amsterdam, dans l'enceinte bien nommée Arena Johan Cruyff. Son esprit régnait hier soir dans ce stade et dans ces tribunes qui ont applaudi au spectacle du début à la fin. Benzema et Asensio donc ont coupé court aux espoirs nés du premier but européen de Ziyech. Il faut dire que les jeunes de l'équipe historique de l'Ajax Amsterdam se sont permis de, c'est secouer le grand triple champion européen, le Real Madrid, pendant une très grande partie du match. Alors, Chérif, on a eu de l'intensité, de l'envie, de l'enthousiasme, ça se voyait, de la générosité aussi, et puis des tirs qui ont fait trembler la défense merengue et surtout trembler le grand gardien Thibaut Courtois. C'est une génération dorée, on va dire, de très jeunes joueurs. Pour vous, elle a renoué avec l'esprit du foot hollandais, comme on disait dans les années 70.
Non, ils n'ont pas renoué, parce que c'est la continuité d'une identité, sauf que là, les joueurs sont...
Au niveau ?
Ouais, il y a deux joueurs spécifiquement néerlandais. Là, il y a vraiment une nouvelle génération, comme on n'avait pas vu depuis un petit bout de temps, parce que la génération encore brillante de ces dernières années, c'était plutôt des étrangers, pas mal de Danois, comme Vertonghen, Eriksen, ou des Belges, comme Alderweireld, et le Danois Eriksen. Là, c'est vraiment des néerlandais, ils sont très jeunes, ils sont très talentueux. Ils ont les faiblesses de leurs atouts et voilà, il y a énormément de générosité, beaucoup de naïveté. Ils ont pris des buts que j'ai vu prendre déjà en championnat parce que il y a cette générosité, c'est ce jeu porté vers l'avant. Il y a un léger déséquilibre quand ils passent dans la phase défensive et face au Real, ça pardonne pas. Il y a aussi des occasions de but qu'il faut pas rater parce que là, on est en Ligue des Champions et c'est le Real. Quand on les rate, on sait que...
Mais il faut être réaliste, c'est le cas
voilà.
de dire.
Voilà, mais c'est... Voilà. Tout le monde a été ébahi. Enfin bon, je veux dire, c'est.
Ça vous a plu aussi, Étienne, ce spectacle, parce que effectivement, on avait deux matchs hier, et même s'il y a eu autant de buts dans l'un que l'autre, celui-là avait un côté échevelé.
C'est pas que ça m'a plu, c'est que j'ai adoré. Franchement, et j'étais supporter de l'Ajax hier, je pense comme beaucoup de monde.
Ah, le
parce
café
que...
hier, c'est pareil. Hein.
voilà.
Ouais, il y avait les fans du Real.
D'abord, il y a une toute petite lassitude de voir le Real à chaque fois donc gagner la Ligue des Champions ces trois dernières saisons, et puis il y a évidemment la résurrection de cette équipe avec des jeunes joueurs. Parce
c'est
que...
ça, on a l'impression d'une résurrection en fait.
Forcément, parce que c'est quand même là, on les a vus pas mal. On les a vus par exemple battre Lyon il y a pas si longtemps, donc en Coupe d'Europe. Mais là, je trouve que c'est toute une équipe avec un système de jeu, avec une intensité collective que je les avais pas vu faire avant. Par exemple, le match contre Lyon, finalement, Lyon a eu pas mal d'occasions et c'était un match relativement équilibré. Mais ce pressing qu'ils sont capables de mettre, c'est le retour un peu du football total tel qu'on l'avait connu dans les années 70.
Patrick.
Ben justement, Étienne parlait du match contre Lyon il y a deux ans. Je pense que c'est ce match qu'on a vu hier soir, le match qu'a fait l'Ajax, doit servir d'exemple à Lyon en préparation de son match contre le Barça.
Rappelons vous êtes déjà la semaine prochaine.
Ouais, mais c'est intéressant puisque c'est un peu le même type d'adversaire que les deux géants espagnols ont tiré, c'est-à-dire un club jeune, parfois qui est un peu inconstant dans les moments cruciaux d'un match, qui peut perdre beaucoup à cause de ça, mais qui a l'enthousiasme et qui a le talent. Et donc Lyon doit s'inspirer de ce qu'a fait l'Ajax hier soir. Bon, rappelons le but de Ziyech, c'est le premier but de l'Ajax en phase éliminatoire de la Ligue des Champions depuis 2006, depuis Mauro Rosales.
Ah oui, hein,
ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps et c'est une vraie. En ce sens, c'est une résurrection. Mais après. Comme l'a dit Chérif à juste titre, je pense que c'est dans la continuité de ce qu'a toujours fait l'Ajax, c'est-à-dire c'est un club qui a toujours essayé de continuer à produire un peu cette espèce de football total.
Après, faut avoir les joueurs.
Ils refont au match retour.
Et bien sûr,
ils ferment jamais
le jeu. Et je me rappelle aussi de la finale de la Ligue Europa qu'ils avaient perdu contre Manchester United de Mourinho et Zlatan. Ben, là encore, leur intérêt aurait peut-être été de jouer différemment, mais non, ils avaient continué à jouer leur jeu coûte que coûte, parce que rien n'est au-dessus de ça à l'Ajax. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est de cette philosophie offensive, de cette philosophie un peu totale. Et c'est ça qui est ce que j'ai vraiment apprécié. Après, évidemment, malheureusement, un mélange de roublardise, de complaisance arbitrale et de naïveté les a privés d'un meilleur résultat.
On va y venir. Antoine, bon, sur le match.
En fait, le Real Madrid s'est un peu retrouvé dans la position de l'équipe de France quand elle est allée jouer à Rotterdam contre les Pays-Bas. Elle est tombée sur une superbe équipe néerlandaise. D'ailleurs, dans cette équipe de l'Ajax, on retrouve De Ligt, on trouve De Jong, qui est futur Barcelonais, donc qui a perdu contre le Real pour la première fois, certainement de sa carrière, pas la dernière. Mais on a vu une équipe néerlandaise qui n'avait absolument aucun scrupule à mettre cette équipe du Real en difficulté et qui a joué sans aucune retenue. Et les Madrilènes ont montré qu'ils avaient quand même énormément de métier. Par être dominé comme ça pendant une heure et arriver à s'imposer à l'extérieur. Chapeau. Hein. Ils ne sont pas triple champion pour rien.
Ouais, on va voir comment ils y sont parvenus d'ailleurs. Mais encore une question sur ce football des Pays-Bas. Chérif, est-ce que aussi, par exemple, on se souvient de l'équipe de Van Gaal à la Coupe du Monde en 2014. Elle arrive certes troisième à la Coupe du Monde et finaliste 4 ans avant avec un autre entraîneur en Afrique du Sud. Mais il n'y avait pas ce magnétisme de football total. Peut-être qu'il n'y avait pas les joueurs. Et sans doute.
Parce qu'en fait, l'équipe des Pays-Bas, c'est plus complexe. Ça a toujours été la bonne alchimie entre un bloc ajaxide, c'est-à-dire des joueurs d'Ajax, mais il y a toujours eu le complément Feyenoord-PSV. C'est indispensable. Par exemple, le seul titre que les Pays-Bas ont gagné, c'est l'Euro 88. La base de l'équipe, elle est plutôt PSV. Il y a des joueurs de l'Ajax, mais c'est plutôt le PSV. L'Ajax, c'est toujours l'identité offensive, créatrice, mais qui a aussi besoin des cogneurs du PSV.
Un
du
bon Yabstam.
Mais il faut des Van Bommel, c'est comme ça qu'on gagne des titres.
Mais dans la philosophie du football hollandais, ça reste le point à atteindre.
C'est la matrice, comme la Juventus, c'est la matrice de l'équipe d'Italie, et le Bayern est la matrice de l'équipe d'Allemagne. L'Ajax, c'est ce qui fonde l'identité des Pays-Bas, toujours. Et si on les retrouve, évidemment, dans la Ligue des Nations, c'est avec cette base ajaxide.
Alors faisons un rêve, s'il n'y avait pas tous les impératifs financiers qu'on connaît, n'est-ce pas, et tous les enjeux. Hier, avant même le match, on disait justement... les internationaux dont vous parlez, Antoine, combien ils coûtent, hein, tous ces jeunes internationaux. Alors on sait, De Jong, c'est autour de... Il a été vendu à 75, c'est ça, hein?
Oui,
autour
75. De 75. Hein, 75. Quelques bonus. Ouais,
voilà, oui, 11 millions, je crois, de bonus. Bon, ça fait beaucoup. Mais par exemple, s'ils pouvaient tous rester dans ce club, vous pensez que d'ici 2 ans, ça serait une équipe fantastique?
En 3 ans, si un groupe ajaxide reste ensemble, moi je pense qu'ils sont éligibles aux demi-finales. Je dis pas qu'ils sont dans le dernier carré, mais ils sont éligibles. C'est-à-dire que pour moi, ils arrivent déjà en quart de finale, ça fait aucun doute. C'est pour ça que tout à l'heure...
En pratiquant ce genre de football...
Oui, avec un peu plus de joueurs qui ont de la bouteille.
D'expérience.
C'est à dessein que j'ai cité les exemples de Alderweireld, Vertonghen et Eriksen. Si ces trois-là étaient restés, un créateur au milieu de terrain... qui a pris de la bouteille, qui est quand même le patron de notre Tottenham aujourd'hui. Et plus derrière, des gens qui ont de la bouteille, les deux Belges, c'est du quart de finale, mais assuré. Ça fait aucun doute. Et puis après, si on repense aux Suarez qu'ils n'ont pas pu garder, aux Zlatan, aux Van der Vaart et tout ça, on est plutôt dans les années 2000. Ils n'ont jamais pu les garder plus de 2 ans, plus de 3 ans.
Ouais.
Faut pas partir trop tôt. Et c'est toujours le même truc. Faut pas partir trop tôt, faut pas partir trop tard non plus.
On peut faire ça aussi avec d'autres clubs, parce qu'on a Lyon qui va jouer contre le Barça. Lyon. Si Lyon avait gardé Umtiti, si Lyon avait gardé Lacazette, ils auraient forcément une plus belle équipe qu'ils ne l'ont aujourd'hui.
Mais ce qui est
terrible avec cette équipe de l'Ajax, c'est que c'est une équipe extrêmement jeune, mais c'est quasiment l'année ou jamais pour eux. Parce que l'année prochaine, on vient de le dire,
ils n'auront
plus de Jong qui sera au Barça, ils n'auront plus de Ligt qui sera parti aussi, et ils auront une équipe qui sera complètement différente et qui sera forcément moins forte, parce que là, ils ont réussi un tout petit peu à garder des joueurs, ils ont un tout petit peu de moyens sur le marché des transferts pour prendre quelques pièces qui leur manquent, mais ça suffira pas. Donc, quand ils font une saison comme ça, ce serait comme l'année, c'était en 95 où ils sont champions d'Europe, et ben il faut que l'année où tout est réuni, ils aillent au bout.
Et
ça va quand même être compliqué, parce que le retour à Bernabeu sera compliqué.
Effectivement, Étienne, quand on pense à Monaco, par exemple, hein, qui une année X, qui était celle où ils sont champions de France et ils vont en demi-finale de la Coupe, ils avaient tout le monde. L'année d'après,
c'est eux qui ont vendu.
C'était, bien sûr, c'est eux qui vendent. Mais là, j'imagine que les impératifs sont tels qu'on n'a peut-être pas le choix.
Les droits télé aux Pays-Bas, ils sont pas extraordinaires.
Oui.
Et le championnat non plus n'est pas. Donc voilà, ça va être réinvesti de toute façon, quoi.
Mm-hmm.
Parce qu'il faut assurer l'avenir. Il y a longtemps qu'ils n'ont pas gagné le championnat, donc. Il va falloir aussi qu'ils soient un peu plus
concentrés. Ils ont perdu ce week-end. Hein.
Ouais.
Ils sont pas au mieux en championnat.
Non. Ils ont pris 6-2 au Feyenoord.
Ouais.
Et ils ont fait 3-3, mais c'est sur les mêmes erreurs de contre que le Real hier soir.
Alors venons-en à la victoire du Real Madrid. Patrick, s'ils ont gagné, c'est Merengue, vous y faisiez allusion. Alors évidemment, c'est l'expérience, c'est l'immense talent. Et on pense à Karim Benzema, mais c'est une alchimie parfaite.
Ouais, moi c'est le joueur qui m'a marqué, disons l'élément marquant pour moi, c'est plus encore que Benzema sur ce match, c'est Vinicius.
On va y venir.
Le Brésilien qui vraiment c'était son premier gros match de Ligue des Champions, son premier match de tour éliminatoire, et là il s'est montré vraiment à la hauteur. La chevauchée balle au pied avant de servir Benzema est magnifique. Après, le Real, c'est toujours pareil. J'ai trouvé que le milieu, quand même, a pas été extraordinaire.
Ouais,
les Modric, les Kroos, ça m'a pas ébloui. Mais c'est l'efficacité dans les deux surfaces. C'est-à-dire, ils ont tenu le choc en défense.
Ramos qui a été,
moi j'ai trouvé hier soir à la fois roublard, mais relativement moins, parfois il est un peu dans l'excès là, je trouvais qu'il a fait un match, disons, tenu, hein, relativement.
Il tient la défense.
Voilà, ouais. Et après dans la surface adverse, Benzema cette saison, il bénéficie, alors je sais pas s'il en bénéficie, aucune équipe bénéficie du départ de Ronaldo, mais il a pris la place en tout cas.
Étienne, sur cette victoire de cette équipe, effectivement c'est un peu à l'usure de l'expérience.
D'abord c'est l'expérience, évidemment, quand on est triple champion d'Europe on a de l'expérience, puis c'est quand même le talent aussi, parce que on vient de le dire sur Vinicius, il fait une percée absolument remarquable, et la lucidité de la glisser à Benzema. Et puis à Benzema, il y a des joueurs de talent, c'est vrai que le milieu a pas été extraordinaire, enfin ils sont toujours là, ils sont en train de revenir en championnat, ils sont en train de revenir en Coupe du Roi, donc ils ont mis en difficulté le Barça chez lui, donc c'est une équipe qui revient. Et sur les matchs à élimination directe, évidemment ils seront là, même si c'est une équipe dont on a le sentiment que chaque année elle est moins forte que la saison précédente. Et on se rend compte quand on arrive au 8e quart, demi et finale de Ligue des Champions, ils sont là.
C'est comme le printemps, c'est les bourgeons qui reviennent.
À partir de février, ils ont les crocs qui poussent, il faut le savoir, le Real, ils sont là.
Alors justement, Karim Benzema, il est là et il poursuit son œuvre magnifique, on va dire, du côté du Real Madrid. Un 60e but de Ligue des Champions. Écoutons le numéro 9 des Meringues.
Pour moi, ce match-là, j'ai pas été très très bon parce que je joue pas comme ça. Après, j'ai eu des douleurs et j'ai terminé avec des douleurs, c'est pour ça que je suis sorti, mais je vais pas retenir ce match. Après, personnellement, je dis. Hein. Après, pour la confiance, pour le premier match de ce 8e de finale, c'est important qu'on ait gagné. L'essentiel, c'est d'avoir gagné.
Humble à la fin du match et pas vraiment enthousiaste de sa propre prestation.
Oui, mais il n'a pas forcément besoin d'être enthousiaste par rapport à cette prestation-là, vu la saison qu'il est en train de faire, Karim Benzema. Parce que on se demandait s'il arriverait à prendre finalement la suite de Cristiano Ronaldo, dont il a été un très fidèle et très efficace lieutenant pendant plusieurs saisons. Et là, il est en train, Karim Benzema, il en est à 19 buts cette saison, c'est le meilleur buteur du Real, et ça, quel que soit l'entraîneur, c'est-à-dire que ce soit avec Lopetegui, où il avait fait un début de saison déjà très intéressant, Karim Benzema, ou que ce soit depuis l'arrivée de Solari, il est en train de réaliser notamment un très très bon début de saison 2019, j'ai compté. Il est à 2, 4, 5, 6, il est déjà à 7 buts, une passe décisive, rien qu'en 2019. On est à mi-février. Et puis, surtout, sur ce qu'on a vu hier soir, la complicité qu'il a pu avoir avec Vinicius, et Patrick parlait de ce but où, en fait, il y a les qualités des deux joueurs, c'est-à-dire qu'il y a Vinicius qui aimante les adversaires et Benzema qui aimante les ballons. Voilà, c'est ça. Le geste d'attaquant sur la passe de Vinicius est juste parfait pour marquer un but qui est importantissime à ce moment-là. Cette association-là, la complémentarité qu'ils ont montrée peut être très intéressante pour la suite, en sachant que Vinicius commence à monter en puissance grâce notamment à Solari.
Justement, Chérif, par exemple, on a eu si longtemps l'association Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, et là on en a une nouvelle. Alors, ils parlent tous portugais, c'est peut-être ça le secret.
C'est la même. Maintenant, c'est au tour de... Enfin, Benzema a joué les livreurs de pizza pour Ronaldo. Maintenant, il a son livreur de pizza titré, qui est Vinicius. Pour l'instant, c'est comme ça. Après, Vinicius, il s'envolera.
Le style est un peu différent quand même, parce que Vinicius, c'est quand même plus un avaleur d'espace que Benzema ou le Cristiano Ronaldo trentenaire, qui est plus devenu un peu un super finisseur. Plus un joueur qui reste quand même dans les 30 derniers mètres que celui qu'on avait connu à l'époque de Manchester United, qui faisait des courses beaucoup plus longues. Ouais. Mais n'empêche, effectivement, on a une complémentarité fantastique entre les deux qui se dessine. Maintenant, ce jeune Vinicius, moi, ma question, c'est jusqu'où peut-il aller? Parce que
il a 18 ans.
On le découvre. Il est très, très jeune.
Mais il n'y a pas que la vitesse.
Oui, il a la vitesse.
Mais il n'y a pas que lui non plus dans l'effectif du Real, parce que là, on est en train d'installer Vinicius comme le titulaire incontesté jusqu'à la fin de la saison. Il y a quand même Asensio.
Justement.
Il y a quand même Isco. Il y a quand même Gareth Bale qui n'était pas terrible.
Isco, il est un peu dans le dur avec
eux. Pour l'instant, ils sont un peu dans le dur. Mais c'est-à-dire que dans l'effectif du Real, il y a évidemment des joueurs expérimentés. Il y a aussi des jeunes joueurs de talent. C'était aussi le talent de Florentino Pérez de pas faire n'importe quoi sur le marché des transferts juste pour remplacer Ronaldo. S'il y a un effectif de jeunes joueurs devant très intéressant.
Reguillon derrière.
Reguillon excellent dans le couloir gauche.
Non mais surtout quand même Gareth Bale, on en parle, mais il est très rarement au rendez-vous de ce qu'on attend. Etienne.
Bah il marque en finale.
c'est ça. C'est ce qu'il doit faire visiblement dans son contrat avec le Real Madrid. Mais bon, on l'enterre un peu vite. Il a fait quand même des bons matchs aussi cette saison. Donc, il y a un effectif quand même assez complet offensivement au Real. Donc, moi, je crois et je suis séduit comme tout le monde par ce Vinicius. Il faut voir quand même sur la suite de la saison, sur le reste des matchs où ce sera peut-être plus compliqué devant, si c'est lui le titulaire ou pas.
Évidemment, Antoine.
Juste rappeler qu'il a 18 ans. Il est arrivé pour 45 millions d'euros. Il a commencé à la Castilla, donc la réserve de l'équipe première du Real, parce que Lopetegui comptait pas sur lui. Son entraîneur à la Castilla, c'était Solari. Quand Solari est arrivé, il a décidé de donner du temps de jeu à Vinicius. Et par rapport à la forme du moment, parce que c'est ce que regarde aussi un entraîneur, hein, Etienne, quand on titularise un joueur, les trois dernières passes décisives de Vinicius, elles sont allées à Karim Benzema. Donc il y a là, sur ce plan-là, une vraie...
Il y a un début de grosse
compétition. C'est quelque chose d'être qui fait l'équipe, comme à l'époque de Ronaldo.
Il y a deux choses quand même assez importantes à noter. C'est que d'abord, aujourd'hui, le Real Madrid, y compris en Ligue des Champions, aligne plus de joueurs formés au club ou de joueurs achetés très jeunes que le Barça, qui était il y a une dizaine d'années au contraire très formateur quand le Real était un club très dépensier, très acheteur. Et puis bon, un petit clin d'œil quand même du destin, le but de la victoire marqué par Asensio, les gens ne le savent pas forcément, mais c'est un joueur d'origine néerlandaise, Marco Asensio, qui est à moitié néerlandais par ses origines familiales, et donc c'est une manière un peu presque que le Real a eu de rendre hommage au football néerlandais à sa manière. Quoi.
Hommage, oui.
Par un coup de poignard.
Il y avait Zidorf et Van der Vaart.
Il y avait Kluivert aussi. Ouais, hein, et Kluivert, c'est vrai, ils étaient là. Il y avait
André Rieu. Pour rappeler des souvenirs de la finale de 95.
Vous avez l'œil, Antoine.
André Rieu, le musicien, mais Julien Magoarou n'a pas osé le mettre dans la bande-son.
Non, il fait très beau à Paris, pourvu que ça dure. Hein.
Alors venons-en quand même aux faits aussi. L'autre, un des faits de ce match, c'est l'assistance vidéo, n'est-ce pas? C'est difficile maintenant de faire une émission sans parler de la fameuse VAR, mais surtout, elle n'avait jamais été utilisée en Ligue des Champions. Le premier soir, tant à Manchester qu'à Rome, on n'a pas eu recours, en tout cas on l'a pas su. Et première utilisation donc, qui n'est pas passée inaperçue, ce premier but est de la partie. But de l'Ajax, annulé par l'arbitre après visionnage des images sur le bord du terrain, on l'a tous vu. Il dit que c'est une faute du gardien ou alors une faute de hors-jeu. On ne sait pas bien, deux versions qui ont en tout cas bien énervé l'entraîneur du club hollandais.
Au sujet du but annulé par la VAR, je ne peux que le regretter parce que j'ai reçu deux explications différentes du corps arbitral. L'un d'eux m'a dit que l'annulation du but était basée sur une position de hors-jeu qui n'était pas évidente à mes yeux. Un autre parce qu'il y avait une faute sur Courtois que je n'ai pas revue sur les images. Malgré tout, je dois féliciter mon équipe, trop inconstante ces derniers temps, mais qui a montré son meilleur visage. C'est encourageant pour l'avenir.
Il a raison d'être en colère, Étienne, cet entraîneur.
Lui, il est entraîneur de l'Ajax, donc c'est assez logique d'être en colère quand la décision.
Vous êtes
défavorable. Non, c'est pas de la com. Forcément, il est d'abord déçu, ensuite en colère.
Depuis hier, on lit partout la polémique autour de cette décision.
C'est forcément une polémique, mais je pense que les deux étaient possibles. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez le VAR, vous devez l'appliquer. Donc, regardez ce qui s'est passé sur l'action. Et quand on regarde ce qui se passe sur l'action, il y a effectivement un hors-jeu de position. Est-ce que ce joueur faisait véritablement action de jeu et gênait véritablement Courtois dans sa sortie, je n'en suis pas persuadé. Donc l'arbitre aurait pu décider de rester sur sa décision initiale, c'est-à-dire d'accorder le but, considérant que finalement ce hors-jeu de position n'avait pas une influence telle sur le résultat qu'il fallait revenir donc en arrière. Maintenant, il peut aussi appliquer strictement la règle, ce qu'il a fait. Moi, je le regrette un peu.
Je pense que ce qui est surprenant, c'est que Courtois n'a jamais l'impression, ne réclame jamais aucune faute sur
non,
lui.
Non, parce qu'il n'y a pas de faute, c'est véritablement le hors-jeu donc, qui est sifflé et qui est considéré par le VAR. C'est plus compliqué à gérer. Ouais. Maintenant, moi, je considère, je viens de le dire, et après, faire très court, qu'il aurait fallu continuer à accorder le but, puisqu'il n'y a pas véritablement d'action de jeu. Courtois ne pouvait pas intervenir.
Shérif ?
D'abord, bon, moi, je discute jamais l'arbitrage. Sur le principe, je préfère retenir le poteau de Tadic, qui pour moi, ça aurait pu être le premier vrai 1-0 pour l'Ajax. On passe. Ce qui s'est passé sur cette action, je suis d'accord avec Étienne, on peut siffler, on peut ne pas siffler. Bon, il n'y a pas faute sur Courtois, le seul truc, c'est que ça va à 2000 à l'heure, c'est que le joueur qui fait écran, il me semble que c'est Daley Blind, mais bon, peu importe, il est pas hors-jeu, et ça en un quart de seconde. Donc, sur le un dixième de seconde où il se retrouve en effet en position de hors-jeu, on peut siffler l'hors-jeu. Donc voilà. Maintenant, dans l'esprit, je pense qu'on aurait dû accorder ce but juste dans l'esprit. Bon, il en a été autrement.
Antoine,
l'arbitre a énormément hésité. ça a été très très long. Il y a eu quasiment 3 minutes, ce qui est interminable quand on regarde un match. Il a pesé vraiment pour le coup le pour et le contre avant de prendre une décision qui lui semblait bonne. Mais ça, c'est le principe de la VAR. Assistance, c'est pas de l'arbitrage en tant que tel.
Ou de mon point de vue, où il applique pas bien les consignes qui ont été données pour le VAR, c'est-à-dire que ça doit corriger une erreur grossière. Ce qui avait été arbitré dans un premier temps de sa part, ce n'était pas une erreur grossière. Et donc, à partir du moment où ce n'est pas net sur les images et que il est dans le doute, il doit rester sur sa décision initiale.
Accorder un but non valable, ce serait une erreur grossière d'arbitrage.
Non, parce que il considère
à vitesse réelle, il peut continuer à
considérer qu'il y a beaucoup de buts qui sont accordés quand il y a un joueur qui est en hors-jeu de position. C'est s'il fait véritablement action de jeu qu'il faut annuler le but. Voilà. Il aurait pu continuer à considérer qu'il ne faisait pas véritablement action de jeu.
On est dans la zone grise parce que justement, la VAR, pour moi, est assez adaptée pour juger si oui ou non un joueur est hors jeu. C'est-à-dire, est-ce qu'il est au-delà de la ligne de hors jeu ou non? Là, il est au-delà puisqu'il est hors jeu de position.
Pas au départ.
Et là, on donne à l'arbitre l'appréciation de savoir si cette position gêne le gardien. Et donc, on est à la fois dans un cas tranché où la VAR pourrait être utile, c'est-à-dire est-ce que oui ou non le joueur est hors-jeu, mais dans un cas où tout dépend de l'appréciation de l'arbitre. Et pour moi, vu quand même l'étroitesse de la ligne, là... le doute aurait dû bénéficier à l'équipe qui attaque et donc à l'Ajax. Donc je regrette cette décision.
Ça serait intéressant du coup d'affiner le règlement d'application de la VAR.
De mon point de vue, il est très clair l'application qui doit être faite par les arbitres.
Pour moi, ça ne gêne pas de façon flagrante.
Ça nous a été expliqué par Rossetti, donc le patron de l'arbitrage de l'UEFA qui est venu à Paris et qui était aussi à Rome au congrès de l'UEFA. Il est très clair que ça doit corriger une erreur grossière. Oui. De mon point de vue, ce qui avait été fait par l'arbitre sur ce match-là n'était pas une erreur grossière.
Bon, en tout cas, le but a été invalidé et donc ce ne sont pas les joueurs de l'Ajax qui ont ouvert le score. Dernière polémique hier autour de ce match, c'est lorsque Sergio Ramos, le capitaine des Madrilènes qui disputait, notons-le, son 600e match pour le Real Madrid, eh bien, a été puni d'un deuxième carton jaune en fin de rencontre et qui ne disputera donc pas de match retour. A-t-il provoqué l'arbitre pour être puni? Ce qui semblait évident aux commentateurs, aux consultants, on l'a entendu, eh bien, le capitaine l'a d'abord reconnu.
Eh bien oui, en vérité, en voyant le résultat, je te mentirais si je disais que c'était... Mais oui, c'était quelque chose que j'avais en tête. Et bon, je ne veux surtout pas sous-estimer l'adversaire. Ni dire qu'on est déjà qualifié, mais il faut reconnaître qu'en foot, il y a des décisions parfois compliquées à prendre. Et je l'ai fait. À la 88e, un carton, et je raterai le retour. Donc j'encouragerai mes camarades du banc pour qu'on puisse aller en quart de finale.
Alors il a dit ça, les confrères espagnols qui entendaient ça en même temps en direct disaient mais c'est pas possible qu'il soit en train de dire ça, et eux-mêmes le disaient. Du coup, une heure après, il a fait un petit tweet quand même, Ramos, en disant je tiens à préciser que j'en souffre plus que quiconque, que je n'ai pas poussé au carton, et dans le jeu il y a beaucoup de sensations, de pulsions et tout. Alors, faute avouée à moitié pardonnée, c'est pas tout à fait comme ça avec l'UEFA.
C'est juste le contraire, c'est-à-dire que évidemment, donc on peut avoir beaucoup d'expérience comme Sergio Ramos et faire des énormes erreurs comme il l'a fait hier soir, parce que ses déclarations, elles vont jouer contre lui. Il est quasiment presque sûr qu'il sera suspendu, donc plus que pour le match retour, parce que
il risque de rater l'aller du quart de finale.
C'est tout à fait probable si le Real s'est qualifié. C'était d'ailleurs arrivé donc à Carvajal, donc qui avait fait exactement la même chose et qui avait été pris par la patrouille et par la commission de discipline de l'UEFA.
Récemment, un joueur de Porto aussi, voilà, pareil.
Donc je pense que les déclarations qu'il a fait juste après le match, malgré son correctif, vont jouer contre lui.
Pour un joueur comme lui, hein, de son expérience, qui représente
600 matchs, capitaine du Real, et là, tout d'un coup,
il aurait dû simplement dire no comment. Bon, maintenant, on peut quand même se féliciter de sa sincérité, de sa roublardise avouée.
Les fans ne reconnaissent aucune sincérité.
Non, mais c'est toujours plus spontané et agréable à écouter que quelqu'un qui fait de la langue de bois, qui dit ah, je ne répondrai pas à cette question.
Non, mais ça, t'attends la fin de la saison.
Ça me fait plutôt rigoler, moi.
Mémoires,
moi, ça me fait plutôt, sa maladresse me fait plutôt rire, quoi, en fait.
Bah, ça vous fait rire, mais
il y a un
un côté crétin.
Il y a une petite forme de mépris quand même pour l'Ajax, parce qu'il reste quand même un match et que vu comment ils ont été bousculés pendant longtemps, peut-être auront-ils besoin de Sergio Ramos pour se qualifier.
Et peut-être sans Varane, ça risque d'être dangereux dans 3 semaines. En tout cas, l'article 15 de l'UEFA est très clair. Une suspension de 2 matchs si le joueur s'est manifestement fait sanctionner d'un carton jaune ou d'un carton rouge.
Donc, voilà.
N'est-ce pas ? C'est écrit là, il n'y a pas d'interprétation plus au-delà de cela. Et l'UEFA, on guettera ces prochains jours. Elle risque de ne pas être très sympa. Here's Vertonghen. It's Watson. Second half is just 70 seconds old. Son Heung-min continues his scoring spree. Back by Sanchez. Pushed in by Orient. Chance for Vertonghen. Oh, what a night he's having. Jan Vertonghen makes it 2-0 for Tottenham. Aren't quite finished here. Eriksen takes. And they've scored again! Fernando Llorente has come off the bench. And Tottenham are clear. 3-0. Et oui, à Londres, dans le beau stade de Wembley utilisé par les Spurs actuellement, eh bien, le match était un peu moins électrique que du côté d'Amsterdam, moins intense, mais tout aussi passionnant, inattendu, car les jaunes et noirs du BVB se sont inclinés, ont bu la tasse même sur un score très lourd. Ils ont perdu 3-0. Dortmund, qui avait tenu jusqu'à la mi-temps, ses cages inviolées, eh bien, a aussi buté sur le gardien des grands jours, ce fameux Hugo Lloris, champion du monde, et qui ne veut pas crier victoire avant la qualification.
On a changé de mentalité, on va dire. On est rentré dans le match avec beaucoup plus d'intensité, on a mis beaucoup plus d'agressivité, on a joué un peu plus haut et on est allé les chercher. Et on a provoqué les erreurs et ensuite on a été très efficace. C'est vrai que la première mi-temps, on était un petit peu timide dans l'engagement. Beaucoup de déchets un petit peu techniquement, ce qui a permis à Dortmund de se projeter très vite vers l'avant. Et ils ont beaucoup de qualité, et donc on n'était pas à l'abri de concéder un but, mais voilà, dans l'ensemble, on était très solide.
Dans l'ensemble, très solide, surtout en deuxième mi-temps, ils ont été impressionnants.
Impressionnants, ils ont monté vraiment de régime en deuxième mi-temps, mais vous avez raison de le souligner, Hugo Lloris les sauve alors que le score est encore de 0-0. S'il ne fait pas cet arrêt...
Il paraît qu'il a fait des arrêts à Gordon Banks.
Toutes les semaines, on entend un arrêt à la Gordon Banks.
C'était pas Pelé, c'était Dan Axel Zagadou.
Voilà, il fallait quand même la sortir, il était là. Et je pense que ça rappelait un peu les arrêts qu'il avait fait au premier tour de l'Euro 2016 avec l'équipe de France, notamment contre la Roumanie. Rappelons-le, où la France avait failli concéder l'ouverture du score. Bon, c'est des vieux souvenirs. Je pense que j'ai été surpris par l'écart, le score entre les deux équipes, parce que le Borussia avait légèrement faibli quand même en Bundesliga ces 2-3 dernières semaines, mais restait quand même sur une moyenne absolument faramineuse.
Ils ont été éliminés en Coupe d'Allemagne. Ils ont encaissé beaucoup de buts ces derniers temps.
Et là, quand même, ils ont vraiment craqué. Ça a craqué d'un coup. Et c'est un peu inquiétant pour la suite. C'est peut-être une équipe qui était prête trop tôt, finalement.
C'est une équipe jeune, surtout. Parce que, mis à part Witzel et Götze, qui ont dépassé la trentaine, qui sont autour de la trentaine.
Il y a Royce, c'est pas un junior quand même.
Mais Royce, il n'était pas là. Rangel était pas là. Il manquait des joueurs d'expérience dans ce Borussia Dortmund. Il manquait Alcacer aussi. Bref, c'est pas une équipe qui était à 100% de ses capacités. Et Tottenham finalement a joué qu'une.
Il manquait du monde à Tottenham mi-temps. Aussi quand même.
Il manquait Kane et Dele Alli.
Quelque part, c'est la fameuse intensité de la première ligue qui fait la différence. C'est-à-dire qu'en première ligue, on joue 90 minutes, voire au-delà, 95 minutes. On est toujours au taquet. Et 1-0, ça leur suffisait pas parce qu'ils ont marqué le premier but très très tôt en début de deuxième mi-temps. Dortmund a eu pas mal d'occasions, c'est même eux qui auraient pu ouvrir le score, mais sur la deuxième mi-temps, il y a la pression qui se fait de plus en plus dure du côté de Tottenham, parce qu'en l'essentiel du jeu, ils ont pas mal balancé sur les côtés, des transversales et tout, pour aller très très vite, pour se projeter très très vite. À la fin, ils sont dans le camp de Dortmund quand même. Donc il y a des centres devant les buts et tout, et puis voilà, Dortmund est acculé parce qu'il y a l'intensité première ligue, ça sert au moins à ça. Je suis assez critique sur la première ligue, mais bon, la fameuse intensité, c'est ça qui fait la différence, parce qu'ils marquent sur la fin, les deux buts.
Ils se sont écroulés, ils se sont déconcentrés, selon vous, les jaunes et noirs, Étienne ?
Ils sont un peu écroulés, ça leur est arrivé donc assez fréquemment ces derniers temps de prendre pas mal de buts dans le dernier quart d'heure. C'est un score qu'ils ont fait en Ligue des Champions. Maintenant, pour Dortmund, j'aime pas normalement dire ça. Maintenant, ils ont un vrai objectif, c'est le championnat d'Allemagne. Ils sont devant le Bayern. Ils ont une occasion unique d'être champion devant le Bayern. On va dire, si jamais ils passent à la trappe en huitième de finale de Ligue des Champions, vu leur effectif, peut-être ils vont pouvoir se concentrer sur le championnat. Mais moi, c'est une équipe que j'adore voir jouer. Donc, c'est absolument formidable leur jeu.
Elle est dans l'esprit aussi.
Offensif. C'est Lucien Favre. Franchement, c'est un génie. Ce gars-là, on a vraiment le plaisir chaque fois de voir jouer ses équipes.
C'est pas moi qui l'ai dit.
Je dirais pas que Tottenham est qualifié malgré le 3-0 parce que ils sont capables chez eux à Dortmund de mettre une intensité, de marquer énormément de buts. Donc c'est un match moi qui me semble encore bizarrement encore un peu
surtout que c'est vrai que Tottenham parfois nous a surpris dans le mauvais sens du terme.
Émotionnel, exactement. En Coupe d'Europe Tottenham.
En tout cas, ils étaient diminués, on le disait tout à l'heure, de leur en tout cas de très bons titulaires, et on pense évidemment à Harry Kane et à Dele Alli, mais l'équipe ne manquait pas de répondants. On avait un très bon Moussa Sissoko, on a eu un plutôt bon Serge Aurier, et puis le buteur fétiche, le coréen Son, qui a ouvert la marque. Les stats disent que chaque fois que Son marque, hein, c'est Opta, nos confrères d'Opta, eh bien Tottenham l'emporte. Une stat, on va dire, intéressante, mais vous allez l'entendre, qui ne suffit pas à rassurer complètement l'entraîneur Pochettino.
La prochaine fois que Son marque, je fonce dans le vestiaire, je me douche et j'attends la fin du match. Ah, que c'était bon, c'était vraiment bien. Son a encore été fantastique. Il est vraiment en forme. Et puis c'est un joueur qui apporte beaucoup de bonnes choses à l'équipe. Toujours son même sourire, il transmet cette bonne énergie. Et ses performances s'améliorent match après match.
Son, le soleil d'Espo, hein, j'exagère évidemment, mais le joueur coréen qui revient de la Coupe d'Asie et qui sauve ses camarades.
Oui, c'est pas la première fois. C'est vrai que score, mais... avec la blessure d'Harry Kane, on se disait qu'avant de jouer les huitièmes de finale de Ligue des Champions, forcément, c'est un handicap énorme pour Tottenham. Mais c'est vrai que depuis qu'il est blessé, Son il marque beaucoup de buts. Donc ils ont trouvé une solution.
Super joueur d'effectif, super joueur d'équipe. Il peut être titulaire, remplaçant. Quand il rentre, il donne tout.
État d'esprit,
il est
titulaire, effectivement.
Ça se voit. 11 buts en une vingtaine de matchs à peine cette saison, Son. Et c'était son premier en Ligue des Champions dans cette édition.
Rien à dire. joueur vraiment d'équipe, comme vous dites.
Un bon Tottenham PSG quand même, avec Pochettino, Aurier, Lucas.
Il faut que les deux se qualifient. Hein, faut pas.
Non, j'ai rien dit.
Ça sera intéressant, en tout cas.
Que Paris a fait du bon boulot pour Tottenham, c'est tout.
Et justement, comme le disait Étienne ou Patrick, on verra si ce match retour, ça sera l'ascenseur dans le mauvais sens avec Tottenham.
Tottenham a des ratés, attention, ils ont perdu à domicile contre United.
Avant qu'on évoque l'Afrique et cette coupe, cette canne des moins de 20 ans, une nouvelle qui vient de nous parvenir, comme on dit, Antoine.
Ça vient de tomber sur nos téléscripteurs.
Voilà,
nos collègues de l'équipe, les collègues d'Étienne Moati, qui nous annonce que Vadim Vassiliev va quitter dans les prochaines heures l'AS Monaco. Le président de l'ASM et l'actionnaire principal, Dimitri Ribolovlev, a décidé de se séparer de Vadim Vassiliev, très certainement en raison des mauvais résultats et des pertes financières qui ont été subies par le club. En gros, Monaco est toujours dans la zone rouge. On s'est séparé de l'entraîneur, on s'est séparé d'un deuxième entraîneur.
Sportif,
maintenant, c'est autour du président. C'est le grand ménage à Monaco. C'est presque le grand n'importe quoi, finalement.
Alors, en tout cas, c'est une reprise en main de l'actionnaire, donc qui avait totalement délégué tous ses pouvoirs à Vadim Vassiliev,
qui était son complice en plus,
qui était absolument son complice, son œil, son bras et son porte-monnaie. Donc, en tout cas, il lui avait confié son porte-monnaie,
qui a amené Monaco à un titre de champion de France et à une demi-finale de Ligue des Champions.
Voilà, qui a réussi à monter le projet sportif et aussi le projet économique entre guillemets de l'AS Monaco, qui a été capable de prendre des joueurs un peu partout, de les revendre avec un bénéfice absolument incroyable, parce qu'il faut savoir que l'AS Monaco, c'est le club en Europe qui a fait le plus de bénéfices sur le marché des transferts ces deux dernières années. Donc c'est une vraie reprise en main. En tout cas, c'est une information sérieuse parce qu'elle émane de l'équipe, évidemment, et surtout de Régis Testelin et Anthony Clément, qui sont nos deux reporters qui suivent l'AS Monaco et qui ont sorti toutes les dernières informations concernant le club.
Et elle est confirmée par l'AFP, donc... Quasiment sûr.
Il y avait des tensions au sommet au sujet du choix du directeur sportif qui avait été nommé à l'automne dernier, Michael Emenalo, le Nigérian, ancien de Chelsea, qui est plutôt quelqu'un qui était habitué à faire des gros transferts, donc à faire venir des joueurs de renom avec des longues négociations, alors que l'AS Monaco était plutôt précédemment dirigé par des gens plus fait pour prendre des prospects, des jeunes joueurs en plus grand nombre, comme Luis Campos, par exemple. Et je crois que ce choix-là n'a pas beaucoup plu à la haute direction du club.
En même temps, on parle d'un retour de Campos aussi.
Aussi.
Mais en même temps, c'est lui qui fait revenir l'entraîneur Leonardo Jardim. Est-ce que c'est aussi ça qui finalement déplairait?
Ben, il s'est désavoué, hein, s'il l'a fait partir et en fait il l'a fait revenir.
Non, à mon sens, c'est plutôt Leonardo Jardim qui est plus habitué à travailler avec des Portugais comme Campos qu'avec des gens comme Emenalo.
Je pense que Ribolo Fleff avait validé le retour de Leonardo Jardim. C'était vraiment un choix de Vadim Vassiliev qui est très proche de Leonardo Jardim et ça a été validé par Ribolo Fleff. Maintenant, derrière, les résultats du club, les résultats financiers, les résultats sportifs ne conviennent pas à l'actionnaire qui a décidé de couper la tête de Vadim Vassiliev. Et il y a aussi eu une tentative de rapprochement un peu de Ribolo Fleff avec la principauté de Monaco. Il y avait
notamment le fils de la princesse, le neveu finalement du prince Albert.
Voilà, et donc aujourd'hui on a le sentiment que Ribolo Fleff, comme il est coincé, il est un peu dans une situation personnelle difficile, juridique avec la principauté, puisqu'il est mis en examen là-bas pour une affaire donc avec un marchand de biens. Donc il y a tout un environnement qui est extrêmement défavorable. En tout cas, on peut se poser des questions sur l'avenir un peu de l'AS Monaco, son actionnaire, parce qu'il ne nous avait pas habitués à faire des révolutions de palais aussi importantes avec
les résultats
sportifs.
Mais surtout à cette époque de la saison en plus, peut-être Étienne, parce que là on est quand même qu'au mois de février et ils sont toujours à la même place dans le championnat, c'est-à-dire à l'avant-dernière ou avant-avant-dernière, et Vassiliev s'en va.
Mais
après un aller-retour de l'entraîneur.
Il faut voir, donc, je n'ai pas encore vu donc qui va être nommé donc dans la foulée, mais ouais. Vadim Vassiliev, c'est quelqu'un qui avait fait ses preuves au niveau national, au niveau international, qui est extrêmement respecté, qui faisait bien son travail. Donc qui va venir derrière? C'est une vraie période d'incertitude.
On attend un communiqué officiel du club a priori dans la soirée pour expliquer les raisons officiel en tout cas du départ de Vadim Vassiliev. Ça risque de fragiliser aussi Leonardo Jardim, alors qu'on sentait peut-être un petit rebond sportif du côté de l'AS Monaco, même si ça restait un petit peu timide. Et puis surtout, le président n'est plus là, alors que le club à combien 70 joueurs professionnels et dont il va falloir gérer les départs. Bref, il y a plus personne à la tête d'un club.
Justement,
il va falloir pourtant gérer.
Il y a peut-être besoin d'un profil différent pour gérer une situation de crise, parce que Monaco va devoir réduire la voilure. Là, ils sont certains de ne se qualifier pour aucune Coupe d'Europe, pratiquement, sauf un miracle absolu. Et ça fait un gros manque à gagner dans les recettes prévisionnelles. Donc je pense qu'il faut aussi quelqu'un pour serrer la vis. C'est peut-être que Vassiliev n'avait pas vraiment le profil pour ça.
Donc a priori, un connaisseur du football, en tout cas quelqu'un qui a déjà exercé des fonctions comme celle-là. Parce que...
On essaiera de toute façon de comprendre mieux demain dans Radio Foot International, dans le Café des Sports.
Some long-awaited revenge, and they've done it! Mali into the final! They were denied 4 minutes from time when Nigeria equalized, but in the penalty shootout.
La joie des Maliens, les premiers qualifiés de cette finale entre voisins d'Afrique de l'Ouest, la finale de la CAN des moins de 20 ans qui opposera dimanche le Mali et le Sénégal. Les Aiglons se sont qualifiés aux dépens des favoris nigérians, favoris parce qu'ils sont septuples champions de cette compétition qui compte déjà donc 20 CAN des moins de 20 ans. C'était donc la séance des tirs au but. En face, nous avons les Lionceaux de la Teranga, hein, qui ont eux éliminé les Sud-Africains. C'était un seul but et un but contre son camp. En tout cas, les deux équipes se connaissent déjà. Elles se sont affrontées le 3 février dernier. C'était à la faveur du Sénégal. 2-0. Mais les Maliens... 2-0. 2-0. Et les Maliens, très motivés par cette finale qu'ils n'ont jamais remportée. Écoutons le défenseur Babou Fofana au micro du correspondant de RFI au Niger, Ousmane Kaïta.
Depuis, on quittait À Bamako, on a dit on vient pour faire 5 matchs et la 5e match sera la finale. Et aujourd'hui, on atteint notre objectif. L'objectif, c'est de remporter la coupe. Et on va le faire. Qu'importe l'adversaire, l'essentiel, la coupe.
C'est une grande joie chez les Maliens aujourd'hui.
Aujourd'hui, vraiment. Et on a dit on l'a fait. Et on les remercie encore. On va les satisfaire plus que ça le dimanche. Et Inch'Allah, tout le Mali va sortir le lundi pour nous accueillir à l'aéroport international de Bamako avec la coupe.
Alors ils en rêvent évidemment de remporter ce titre. Peut-être que pour ce qui est de leur passé, de leur CV, déjà assez jeunes joueurs pourtant, ils ont gagné, alors le Mali disons a gagné deux fois la CAN des moins de 17 ans en 2015 et en 2017. Alors voilà, comme écrit David Kalfa sur le site Afrique Sport, Afrique Foot pardon, en évoquant ce match, il dit des cadets devenus de solide junior. C'est ça la clé du succès du Mali.
Ouais, le Mali qui a un peu redéployé sa politique de jeunes depuis quelques années.
En dépit de tous les problèmes de la fédération,
ouais,
n'est-ce pas ?
Mais il y a un travail de formation quand même de qualité de qui est fait. On a eu l'académie Jean-Marc Guillou à Bamako qui a sorti pas mal de joueurs qu'on connaît, qui sont aujourd'hui en Ligue 1, comme Amari Traoré par exemple, hein, à Rennes. Et donc ça a un petit peu changé l'identité de jeu du foot malien, ce travail qui était un plus un foot défensif très rugueux. Et là, on a un foot un peu plus joueur, un peu plus équilibré, je trouve. Donc c'est intéressant pour ça. Maintenant, malgré tout, je donnerais un léger avantage au Sénégal sur cette finale parce qu'il reste sur deux finales de suite dans cette épreuve. Là, le grand favori est éliminé, c'était le Nigeria qui était quand même encore peut-être la meilleure, sinon l'une des deux ou trois meilleures équipes. Ça s'est joué à pas grand-chose, donc léger avantage pour ma part au Sénégal qui surfe sur une bonne vague en plus et qui est un petit peu mieux au niveau de la gouvernance que le foot malien qui est en difficulté en ce moment.
Eh ben, on va entendre le capitaine de ces jeunes lionceaux de la Teranga, Ousseynou Diagne, qui est au micro aussi d'Ousmane Keïta, qui suivait pour RFI la compétition au Niger.
On est très fiers et on est très contents de cette qualification. Dès l'entame de match, eux, ils ont joué en bloc bas. Ils ne voulaient pas sortir pour jouer parce qu'ils savent que s'ils sortaient pour jouer, le match n'allait pas être comme ça. Parce que nous avons des joueurs très rapides devant et eux ils le savent, c'est pour ça qu'ils ont resté dans leur zone pour essayer de jouer en contre. C'est une finale, c'est un seul match et on va jouer crânement nos chances et essayer de la remporter.
Le Sénégal part largement favori pour cette finale?
Non, c'est du 50-50. C'est du 50-50.
Est-ce que c'est vraiment du 50-50? Qu'est-ce que vous diriez, vous, Chéri Guémour?
J'ai juste vu un peu Sénégal. Le Sénégal a battu le Mali 2-0. Donc ils ont marqué beaucoup de buts au premier tour. Je crois qu'ils en marquent 9. Ils sont plus 8 alors que le Mali est à 0. Il y a les demi-finales. Pour le Sénégal, ils sont qualifiés en 90 minutes. Donc même au niveau de la fraîcheur, comparé au Mali qui a joué
les prolongations et les tirs au but.
Moi, je donnerais un avantage quand même au Sénégal.
Ouais. Antoine,
ça peut pas être tout à fait du 50-50 vu l'expérience des Sénégalais à ce niveau-là, tout simplement. Même si effectivement il y a forcément ce petit complexe du fait d'être arrivé deux fois en finale en 2015-2017, de les avoir perdus toutes les deux, mais c'était aussi avec un autre sélectionneur, avec Joseph Kotto qui depuis n'est plus là, qui a été remplacé par Youssouf Dabo, qui fait un travail intéressant également et Ça porte ses fruits sur cette phase finale de CAN au Niger.
Il y a une belle dynamique quand même dans le football au Sénégal en ce moment, puisque rappelons-le, le Sénégal a gagné la CAN de beach soccer en décembre. Ça a l'air de rien, mais ça, disons que c'est un pays qui s'est décomplexé au niveau continental et qui se met à gagner. Donc je pense que là, le moment est venu pour le Sénégal, même si le Mali a une belle équipe. Et je pense quand même que à la lumière de ces demi-finales, ça va être assez serré. Je vois pas un match avec beaucoup de buts. Je vois une finale tendue, disputée, peut-être avec des prolongations, voire des tirs au but.
En tout cas, c'est deux pays à qui il manque vraiment ce titre continental et qu'il ferait passer à un autre niveau.
Bon, ils en rêvent aussi pour ce qui est de la compétition qui se déroulera en Égypte, n'est-ce pas? En tout cas, rappelons-le, dimanche 17 février, donc à 17h à Niamey, au stade Seni Kouché, c'est donc au Niger. Et c'est la fin de ce Radio Foot. Merci à tous d'avoir participé. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission. Merci à Pierre Guérin et à Julien Magoharou qui était à la réalisation. On vous dit à demain à Café des Sports.